En général, à l'école, voilà, on passait assez rapidement sur Bathsheba, et puis voilà. Là, on va continuer, et c'est un petit peu plus lourd. Voilà, donc j'ai passé du temps à prier un peu ce matin encore, parce que c'est un texte qui est profondément désagréable. Mais bon, il y a des choses, comme toujours dans la Bible. Il faut se dire, s'ils sont là, c'est qu'ils ont une raison d'être. Et on avait terminé la dernière fois avec la repentance de David. Et c'est important de s'en souvenir, on en était resté là. Et surtout, je vais quand même lire les versets 24 et 25 avant d'aborder le chapitre 13, parce que je crois que c'est quand même très très important. À la fin du chapitre 12, on apprend que Bathsheba mit au monde un fils, donc un deuxième, hein, qu'il appela du nom de Salomon. Alors Salomon, ça vous dit quelque chose, hein? Et il fut aimé du Seigneur. Par l'intermédiaire de Nathan, le prophète, il l'appela du nom de Yedidia, bien-aimé du Seigneur. Et c'est encore répété à cause du Seigneur. Salut, maman. Et donc, voyez que la malédiction, la punition que Dieu a envoyée à David avec la mort du premier bébé, ça s'arrête là. Dieu ne retire pas, il n'étend pas sa malédiction à tout ce qui va se passer après. Au contraire, après la repentance de David, ce qui est important à noter, c'est qu'il va bénir cet enfant. Alors, moi, ça m'a parlé parce que dans les siècles passés, les enfants illégitimes, entre guillemets, étaient mis à l'index, condamnés très méchamment, rejetés un peu de la société, etc. Et ben Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et parfois, malheureusement, c'était au nom de la foi. Et voyez que Dieu n'agit pas comme ça. Même avant la venue de Jésus, même dans l'Ancien Testament, il n'agit pas comme ça. Le deuxième enfant, il est béni, il est bien-aimé du Seigneur. Ouais, les hommes auraient rejeté Bathsheba et tout ce qui venait après, hein. Et non, Dieu n'est pas comme ça. Et je pense que ça nous donne une image de Dieu qui est beaucoup plus proche de la réalité que ce que les hommes ont créé pendant des siècles. Ce Dieu vengeur, ce Dieu accusateur, ce Dieu qui punit. Oui, c'est vrai, il y a eu punition, il y a eu malheur, il y a eu désobéissance. Dieu est intervenu, mais David s'est repenti et il a retrouvé la grâce de Dieu. À tel point que ce fils va être bien-aimé de Dieu. Franchement, ça n'aurait pas pu se faire il y a quelques siècles, hein. Les gens n'auraient jamais accepté. Et je crois que c'est là qu'on voit la grâce de Dieu, qui nous corrige, mais il est aussi celui qui bénit, qui pardonne et qui touche le cœur et qui permet que ce deuxième enfant soit bien-aimé de Dieu. Hein, ça, je voulais le souligner parce que, voilà, c'est vrai que David a vraiment désobéi à Dieu gravement, hein, et ce n'est pas pour autant que Dieu l'a rejeté. Et ce qui est formidable dans la Bible, c'est qu'on a une image de Dieu qui a horreur du péché, de la désobéissance, de la faute, mais qui aime le pécheur, qui aime l'être humain, malgré toutes ses fautes. Et on va voir, avec cette histoire horrible qu'on va commenter aujourd'hui, que ça se confirme. Dieu aime le pécheur, mais il reste justice, mais il est amour. Et ça, c'est très, très important. Et on avait fini la dernière fois en citant les paroles de ce petit chant qui est bien vieux, hein, qui disait « Tu peux tout recommencer, tu peux repartir à zéro, balayer ta vie passée avec Jésus pour berger. » Il y a toujours un nouveau départ qui est possible avec Dieu. On ne doit pas et on ne peut pas rester bloqué sur une faute, sur quelque chose. Une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, c'est effacé. On peut redémarrer à zéro. Bien sûr, à condition d'être sincère, hein, si c'est de la comédie, ça, on parle de choses sérieuses, là. Si on est sincère, si vraiment on demande pardon à Dieu, on répare ce qu'il faut réparer, bien sûr. Dieu pardonne et on peut repartir à zéro. Et avoir une très très belle vie et être bien aimé de Dieu. Hein? Et ça, c'est formidable. Et il ne faut jamais oublier ça dans ces épisodes un petit peu difficiles. Et je repense à ce que Jésus a dit à la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, et tout le monde faisait tout un tintouin autour, on pointait du doigt, on était prêt à la lapider, tant qu'à faire. Jésus dit, va et ne pêche plus. Va, tu es libre et ne pêche plus. Lui, il trouve le juste milieu. Il ne dit pas, bon, continue comme ça, l'important, c'est l'amour, ce qui est un peu le discours d'aujourd'hui. Ou alors l'ancien discours, il faut lapider le pécheur. Non, Jésus a toujours ce discours. C'était quand même 2000 ans avant aujourd'hui. Hein. Va, va, t'es libre, t'es pardonné, mais ne pêche plus. Hein, voilà, c'est pas compliqué. Jésus a toujours cette position, moi, que je trouve merveilleuse, d'amour et de justice. De justice et d'amour. Il y a les deux. L'homme, parfois, n'arrive pas à pardonner. Ou bien alors, il choisit d'ignorer le péché, oh, c'est pas grave. Mais Dieu, lui, il pardonne, il prend conscience, enfin, il reconnaît l'existence du péché, il pardonne et il restaure la personne. Et ça, c'est formidable. Et c'est vrai dans nos vies, même pour des choses, bien sûr, on n'a pas tué notre voisin, mais dans tout ce qu'on fait de travers, dans tout ce qu'on se reproche, dans tous les moments de notre vie, on se dit, j'aurais pas dû, Seigneur. Mais oui, mais il ne faut pas rester là-dessus, vous avez demandé pardon. Vous avez dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai vraiment désobéi, j'ai gaffé. Vous le dites dans votre vocabulaire, mais ça revient à dire, je me suis plantée. Mais toi, tu restaures, tu guéris, tu pardonnes et tu restaures. Il faut toujours rester, même dans ces histoires horribles qu'on va voir aujourd'hui, avec cette idée en tête qui est la vérité. Dieu reconnaît le péché, mais il pardonne et il restaure. Et ça, c'est important. Et des siècles, dans les siècles passés, malheureusement, on a beaucoup déformé le visage de Dieu. Alors que c'est là, déjà il y a 3000 ans. Hein, c'est incroyable. Alors, on va aborder cette histoire de Tamar. Je vais peut-être lire un petit morceau, je ne sais pas trop, on va voir. C'est un peu délicat. Peut-être en introduction, je dirais que qu'est-ce qu'une histoire comme celle-ci peut bien nous apporter ? Vous allez voir, elle n'est pas marrante. Et ah, ça, pour ça, elle est moderne. Hein. Elle est digne d'un épisode sur Netflix. Honnêtement, on pourrait faire un super épisode d'une série sur Netflix. La révolte d'Absalom, premier épisode. Les causes. Les causes, bah oui. On ne peut pas lui reprocher, elle est moderne. Parce que l'être humain, finalement, en 3000 ans, cette histoire, elle a à peu près 3000 ans, eh bien, il n'a pas changé. Le cœur de l'être humain n'a pas changé. Il n'a pas évolué en 3000 ans. On en est toujours au même point, toujours avec nos qualités, nos défauts, avec notre humanité. En 3000 ans, ça n'a pas changé. Donc la Bible a encore son mot à dire. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 10, elle dit, à propos des Israélites dans le désert, mais ça s'applique à toute la Bible, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est-à-dire qu'il y a des exemples positifs, et on a passé des semaines sur les exemples positifs de David, qui donnent envie d'être comme lui, d'être patient comme lui, d'être juste comme lui, etc. Et puis ben maintenant, on va voir pas mal d'exemples négatifs. Mais la Bible dit, ce sont là des exemples afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. C'est-à-dire, ben, essayons de ne pas faire la même chose. Alors, on va aborder donc 8 chapitres, c'est beaucoup, hein, mais je pense qu'on va les résumer un petit peu, 13 à 20, qui nous rapportent toutes les misères de David. Après avoir la gloire, c'est les misères. On va voir un David faible, et incapable de punir ses fils au comportement scandaleux, viol, meurtre. Il va manifester beaucoup de passivité, à côté d'autres fois où il avait tant de zèle pour la justice. Aïe, aïe, aïe. Son péché avait vraiment créé quelque chose. C'était une porte ouverte. Mais il n'a pas tout perdu. Tout au long de ces histoires, vous allez voir que Dieu n'a pas abandonné son alliance. Et ça, c'est formidable. Peu importe ce que vous faites, dès que vous revenez vers le Seigneur, l'alliance, elle est là, intacte. Intacte. Et la promesse d'avoir toujours un héritier sur le trône, elle s'est réalisée. Et 1000 ans après, elle s'est merveilleusement réalisée, puisque Jésus, descendant de la tribu de Juda, est roi pour l'éternité. Mais ce texte nous montre aussi que David, comme les autres, il avait besoin d'un plus grand que lui. D'un plus grand que lui, qui pouvait donner sa vie pour le pardon des hommes. Il avait besoin aussi d'un Messie, même s'il est arrivé 1000 ans après. David n'était pas sans péché, il avait besoin aussi d'un plus grand que lui, comme nous. Ça nous montre aussi de ne pas idolâtrer les hommes. Et vous savez que je cite souvent ce verset, Je me répète beaucoup, ça n'a pas changé. Ça a même empiré. Malheur à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. La confiance aveugle, la confiance totale, la pleine confiance, on ne peut la donner qu'à Dieu. L'homme est faillible. L'homme déçoit, quels qu'ils soient, les meilleurs des meilleurs. Ils vont forcément être décevants parce qu'ils sont humains. Il se trouve qu'ils sont humains. Donc, voilà. C'est un petit peu la leçon, et on va aborder ce texte horrible. Donc, David vient de remporter une victoire à Rabba. Je passe sur ce texte. Joab a été très gentil, il lui a dit de venir vraiment célébrer la victoire pour les dernières minutes du combat, on va dire. Ok, Joab, c'était donc son général en chef. Et après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Premières images de la série Netflix. Amnon, fils de David, l'aimait. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire auprès d'elle la moindre tentative. Amnon avait un ami, deuxième personnage, nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, donc c'était son cousin, et Jonadab était un homme très habile. Alors, c'est important de noter que le mot habile ici, j'ai fait des recherches, ça veut dire plutôt rusé que habile. Il lui dit, « Pourquoi as-tu l'air si misérable, matin après matin, fils du roi ? Ne veux-tu pas me le dire ?» Vous imaginez très bien, dans une série, ce que ça donne, ça. Moi, je sais pas, je vois ça. Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, la sœur d'Absalom, mon frère. » Donc, c'était la demi-sœur. Jonadab lui dit, « Couche-toi et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Je t'en prie que ma sœur Tamar vienne me donner à manger, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et qu'elle me la donne de sa propre main. » C'est un comédien. Amnon se coucha et fit le malade. Il suit les conseils. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Ouais, David aimait ses enfants, ils étaient malades, il allait vite les voir. On voit bien le cœur du père. Et Amnon dit au roi, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire deux gâteaux, en plus il est précis, sous mes yeux et qu'elle me nourrisse de sa propre main. » David fit dire à Tamar, chez elle, « Va, je te prie, chez Amnon ton frère, et prépare-lui à manger. » Tamar alla chez Amnon son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Là, ça serait filmé sur YouTube, ça. Les recettes de Tamar. Puis elle prit la poêle et le servit. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde de chez moi. Et tout le monde sortit. Ouais, vous savez, dans un palais, il y avait beaucoup de serviteurs. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-le-moi dans la chambre et nourris-moi de ta propre main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Et là, vous avez la musique qui arrive. Musique épouvantable. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Et comme elle les lui présentait pour qu'il mange, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Donc, c'était sa demi-sœur. Elle lui répondit, « Non. » C'est important de bien remarquer comment elle se comporte. « Non, mon frère, n'abuse pas de moi, car cela est inadmissible en Israël. Ne commets pas une telle folie. » C'est un mot très fort. « Où irais-je, moi, avec mon déshonneur ? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne refusera pas de me donner à toi, mais il ne voulut pas l'écouter. Comme il était plus fort qu'elle, il abusa d'elle. Ainsi, il coucha avec elle. Puis Amnon se mit à la détester de tout son être. Il la détesta plus encore qu'il ne l'avait aimée. Il lui dit, « Lève-toi, va-t'en !» Elle lui répondit, « Mais tu ferais un plus grand mal encore en me renvoyant. » Mais il ne voulut pas l'écouter, il appela son serviteur personnel, cette fois il a fait revenir, et lui dit, « Renvoyez-moi celle-là dehors, je vous prie, verrouille la porte !» comme si elle était dangereuse, derrière elle. Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête, déchira sa tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit sa main sur sa tête, un geste de deuil, et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, garde le silence, c'est ton frère. Ne te soucie pas de cette affaire. » Tamar, délaissée, s'installa chez Absalom, son frère. Et là, la phrase qui tue, après tout ce qu'on sait de David. Le roi David apprit tout cela et il fut très fâché. Bon, ça en dit long. Absalom ne dit rien à Amnon, une autre réaction. Mais il le détestait parce qu'il avait abusé de Tamar, sa sœur. Et là, voilà, l'épisode est terminé et on a tous les éléments pour l'épisode suivant. Oh, non, c'est vraiment la série, là. Alors, quelques explications quand même. D'abord, c'est une longue histoire, je trouve, dans ma Bible, ça fait quand même 2 colonnes. Et je vous dis souvent que la Bible est sobre dans ses histoires. Elle est sobre, elle ne donne pas beaucoup de détails, c'est souvent nous qui devons réfléchir. Et comment se fait-il que ce récit, qui est horrible, il est aussi précis, il est rempli de détails, on peut vraiment, on le voit devant les yeux, ben, c'est pas un hasard. Quand vous voyez quelque chose d'inhabituel dans la Bible, dites-vous toujours pourquoi. Il faut toujours se demander pourquoi. Pourquoi cette histoire est là? Pourquoi elle est si longue? Pourquoi elle est aussi horrible? Et puis elle a quand même sa place sur 2 colonnes dans ma Bible, c'est bizarre. Je pense que c'est d'abord parce que c'est une histoire grave et importante. Et tous les détails contribuent à insister sur l'horreur de cette situation. Alors vous allez me dire, ben c'est normal, hein, c'est horrible. Eh bien non. Combien de gens aujourd'hui croient encore que la Bible est misogyne? Combien de gens aujourd'hui pensent que les femmes étaient des objets et que même Dieu, dans l'Ancien Testament, la femme, elle comptait pour du beurre? Il y a encore beaucoup de gens qui croient ça. Et je pense que ce texte est là aussi pour nous dire non, pas du tout. Dieu est horrifié de ce qui s'est passé. Horrifié. Et Dieu ne pense pas que les femmes comptent pour du beurre. Sinon, il n'y aurait pas 2 colonnes sur cette histoire, je peux vous le dire. Donc ça, c'est important. Il y a une volonté de l'écrivain biblique d'insister sur l'horreur de cette situation, de façon à ce que le lecteur désapprouve. Et franchement, il y a 3000 ans, il y avait certainement, peut-être même plus de gens qu'aujourd'hui, qui disaient « Oh, bah, après tout, c'est pas grave. » Des hommes, bien sûr. Le lecteur doit être choqué par le stratagème, déjà, la violence et la détresse de la jeune fille. C'est pour ça qu'il y a une telle insistance. Et quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, il y a tellement de gens qui pensent que les femmes ne comptaient pas dans l'Ancien Testament. Si elles comptaient. Pour que l'écrivain biblique ait consacré une histoire aussi longue à cette histoire-là, je crois qu'il y a une volonté de dire, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis, bien sûr, l'écrivain biblique oppose 2 réactions différentes à l'histoire. Alors, il y a la réaction d'Absalom. Vous avez remarqué, allez, ma sœur, c'est ton frère, demi-frère, bien sûr. Te soucie pas de cette affaire. Te soucie pas de cette affaire, franchement. C'est un peu léger, hein, après ce qui s'est passé. Seulement, Absalom, il dit pas tout, lui. Absalom, dès ce moment-là, on voit qu'il est secret. Il a son plan. Et en fait, on pourrait traduire « t'occupe pas de cette affaire, mais moi je la prends en main ». C'est un peu ça qu'il veut dire. « T'en soucie pas, toi. C'est pas à toi de te soucier de cette affaire. Mais crois-moi, moi je vais m'en occuper. » Bon, et par contre, la réaction qui choque, c'est David. David, c'est le père. David, c'est le roi. Et le roi, à cette époque, était responsable de la justice. Aïe, aïe, aïe. Appelez ça de la justice. Et David, comment il réagit? Il a pris tout cela et il fut très fâché. What? C'est tout? C'était son rôle de mettre fin à ça. Alors, si on regarde la loi à cette époque, c'est Lévitique 18 qui parle de ces problèmes-là et qui dit que la personne, donc Amnon, aurait dû être retranché du peuple. Alors, retranché du peuple, c'est soit la mort, soit l'exil. Rien n'a été fait. Donc là, on a un gros souci. David, qui était si juste, si proche du Seigneur, comment est-ce qu'il a pu se contenter de dire ça? Alors on va voir tout à l'heure pourquoi. C'est bien ennuyeux. Alors, qui est Amnon? Soit pour s'y retrouver un petit peu. L'agresseur. Et il était fils d'Akinoam de Jisraël, première femme de David, après Mical, puisque on lui avait enlevé sa première femme, on l'avait renvoyée. Cette femme venait des montagnes de Juda, donc tribu de Juda, tribu royale. Amnon est né à Hébron, qui était la première capitale du roi David. Donc c'est le fils aîné. Ça doit nous faire réfléchir. C'est donc l'héritier du trône. Logiquement, c'était l'héritier du trône. Son père était David, donc roi, et sa mère était aussi de la tribu de Juda, donc tout était bon pour lui, pour succéder à David. Voilà comment on peut ficher en l'air les meilleures conditions de vie possibles. Il avait tout pour réussir. Mais il voulait Tamar. Absalom, de son côté, c'était le troisième fils. Le deuxième, on n'en parle pas, les commentateurs pensent qu'il est mort en bas âge peut-être. Mais donc, c'était le deuxième dans la succession. Sa mère était princesse de Geshur, son père était roi de Geshur, donc c'est des païens, mais de sang royal. Et puis, Absalom avait aussi une sœur, donc, qui s'appelait Tamar, même père, même mère que Absalom. Par contre, pour Amnon, c'était une demi-sœur. Alors, Amnon aime Tamar à la folie. Mais à l'époque, les filles non mariées vivaient à part dans le palais et avaient très très peu de relations avec les hommes, même les hommes de la famille. Amnon se ronge de ne pas pouvoir la contacter et il a un ami. Un ami. C'est Jonadab, neveu de David, donc c'est son cousin. Et apparemment, ils s'entendent très bien. La Bible le décrit comme un homme habile, sage, mais d'une sagesse un peu dangereuse. Rusé, je pense, astucieux et rusé serait le meilleur mot. Jonadab, franchement, il aurait pu faire du théâtre. D'ailleurs, il y a des pièces de théâtre. Molière s'est beaucoup servi, Le Malade Imaginaire, Volpone dans le théâtre anglais s'est servi de ce genre de truc. Donc c'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme depuis toujours. Il aurait pu faire du théâtre, Jonadab, parce qu'il monte tout un scénario. Tu fais le malade, donc ton père va forcément venir, et puis chacun sait que quand les enfants sont malades, les parents, ils sont prêts à tout faire pour eux. Donc il ne va pas te refuser ça. Voilà. Tu fais le malade, ton père va venir te rendre visite, et puis voilà, tu vas lui demander d'envoyer Tamar. Il est conquis, qu'est-ce qu'il est sympa cet ami, Il a trouvé une solution. David, lui, il est dans un contexte familial. Pour un homme qui avait pas mal de discernement, il se fait complètement avoir. Il a confiance, totalement confiance dans son fils. Son amour paternel, je pense, le rend totalement aveugle, fait confiance. Il se dit, si ça lui fait du bien, ça va l'aider à guérir. Pourtant, il connaît la vie et son expérience avec Bathsheba aurait quand même pu lui mettre la puce à l'oreille. Mais non, la preuve, l'expérience ne suffit pas. Il autorise par compassion quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque et qui va mettre Tamar en danger. Il prend même pas la précaution qui aurait été normale à l'époque, franchement, d'envoyer une dame de compagnie avec elle. Parfois, c'était la nourrice, la vieille nourrice qui l'accompagnait. C'est un vieux classique de cette époque-là. Mais il a tellement confiance, il y croit. C'est son fils. Et la stratégie de Jonadab va fonctionner. Et là, vous allez me dire, mais attendez, ça peut être interprété différemment. Parce que moi, je vois Jonadab négativement, le mauvais conseiller, etc. Alors, il y a des commentateurs bibliques qui disent, mais Jonadab, il voulait aider son ami. Il voulait lui donner l'occasion de parler avec Tamar, de lui déclarer ses sentiments. Et puis, il a trouvé une solution comme une autre, bien sûr. Il y en a d'autres qui disent, mais peut-être s'ils pensaient mettre le roi devant le fait accompli. Bon, maintenant qu'ils ont couché ensemble, tu vas les marier, Peut-être. Vous voyez, les avis sont partagés parce que la Bible ne le dit pas. Et comme je vous ai déjà dit, quand la Bible ne dit pas, ça rend service. Parce qu'on peut plus facilement s'appliquer les choses à notre vie. S'il y a trop de détails, on dit « Ah non, ce n'est pas mon cas ». Là, ça peut s'appliquer à des cas très différents. On peut dire aussi « Jonadab n'a pas forcément prévu qu'il y aurait viol ». Mais non, il n'a pas pensé à ça. Il pensait pas mal, Jonadab. C'était le gentil cousin. Et il n'avait surtout pas prévu que Tamar soit haïe et renvoyée. Ça, c'est possible. Puis enfin... Il y en a d'autres, je crois que je fais partie de ceux-là, je pense que les femmes vont peut-être être d'accord avec moi, qui pensent que c'est que de la ruse et du mépris pour les filles, du mépris pour cette jeune fille. C'est un objet qu'on utilise, on le fait venir et puis on le rejette quand on n'en a plus besoin. Bon, là je fais du féminisme, vous m'excuserez. Mais il y a quatre interprétations possibles de l'attitude du cousin. Alors, je serais curieuse de savoir ce que les jeunes filles pensent ici, vous me direz après. Mais il y a une chose qui est sûre. Ça, c'est sûr. Le conseil n'était pas inspiré de Dieu, parce qu'il était fondé sur le mensonge, la comédie. Et Jonadab, à mon avis, n'avait pas non plus prévu toutes les conséquences de cette histoire. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, attention, quand on veut absolument quelque chose, et là je pense aux ados, quand on veut absolument quelque chose, on va écouter les conseils qui vont dans notre sens. Hein? C'est normal, on est humain. Et les amis ont parfois des astuces, et là je vais être un petit peu méchante avec vous les ados là. Les amis, ils ont des astuces. Hein. Allez, vous allez reconnaître certains, je pense. Comment faire céder les parents? Alors, bien sûr, si ça vous fait plaisir, mais que ça s'appuie sur le mensonge, la comédie, le chantage, les signatures contrefaites, ou jouer papa contre maman, ce n'est pas des conseils qui vont vous mener loin. Attention. Faites attention à ces conseils-là. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des amis, ils m'aiment beaucoup. Est-ce qu'ils prévoient les conséquences? Parce que c'est vous qui allez les payer les conséquences, c'est pas eux. Hein. Faites attention. Vous allez me dire, oui, mais leurs intentions sont bonnes, ils m'aiment beaucoup, ils sont sympathiques. Ah ah. Mais vous savez, parfois les choses peuvent devenir graves. Les choses peuvent devenir graves. Et ce que vous risquez, c'est de perdre la confiance de vos parents, ou de vos profs, ou de la personne concernée. Donc attention aux conseils qui vous sont donnés. Même si ça vient d'un cousin, d'un ami, de quelqu'un de proche, regardez sur quoi il s'appuie le conseil. Est-ce que c'est sur la vérité, la bonté, l'amour pour les parents, pour la famille, etc. ou c'est vraiment « fais ce qui te plaît et ça ira très bien ». Vous savez, alors là, je parle en grand-mère hein, qui regarde de temps en temps les nouvelles. J'étais effarée récemment de voir que un ado avec son ami a piqué une voiture de ses parents et puis bon, ils ont eu un accident mortel tous les deux. Bon, bah oui, je pense pas que cet ami lui ait dit tu vas pas faire ça hein, parce que si tu fais ça je viendrai pas avec toi. Il avait 14 ans. Il était d'accord. J'imagine qu'il ouais chouette on va faire une super balade. C'était une 4x4 je crois en plus. Hein. Ouais, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Les conseilleurs sont pas les payeurs, les amis. Si les conseils ne s'appuient pas sur des bonnes choses, bien sûr, hein, si ça s'appuie sur le, trafiquer, etc., faire des astuces, attention, et Amnon a fait confiance. Amnon n'avait qu'une chose à faire, il était de la tribu de Judas, il connaissait, il savait à qui s'adresser pour la loi s'il ne la connaissait pas par cœur, parce qu'à l'époque, ils apprenaient par cœur la loi. Il avait juste à consulter, Lévitique 18, c'était clair, c'était niette. Il aurait évité beaucoup de tragédies, parce que cette histoire, en fait, va nous amener à tout un tas de tragédies. D'abord, la pauvre Tamar, qui a une vie brisée. Ensuite, la colère d'Absalom, qui va être meurtrière, il va finir par tuer Amnon. Et puis, le conflit qui va durer entre Absalom et son père David. Tout a commencé là. Évidemment, moi je comprends Absalom, hein, son père il n'a pas bougé. Absalom était en colère. Il respectait sa sœur. Je crois que c'est une grosse qualité d'Absalom, c'était le respect qu'il avait pour sa sœur et l'empathie qu'il avait avec la détresse de sa sœur. Ça, c'est une grosse qualité. Je ne veux pas être trop méchante avec Absalom parce que je trouve que c'est formidable. Il y a 5000 ans, enfin, 3000 ans. Et 3000 ans, c'est quand même fort hein, à cette époque. Alors, Tamar, on va regarder rapidement ses réactions. Elle aussi, elle est dans la confiance au départ. L'autorisation du roi, son père, lui suffit. Si David l'a dit, c'est bon. Hein? Et puis, elle a la compassion de son frère malade. Et jouer sur la compassion des gens, je trouve ça vraiment, vraiment méchant. Il savait qu'elle aurait compassion. C'était une fille sympa, apparemment. Et j'aime bien les arguments qu'elle utilise. Si vous les regardez dans l'ordre, son premier argument, c'est « ça ne se fait pas en Israël ». Ah, ça ne se fait pas en Israël. Elle était donc, bien que ce soit une princesse païenne, elle était consciente qu'il y a des choses qui se faisaient dans les pays païens, qui passaient, qui ne se faisaient pas en Israël, parce qu'il y avait une loi, parce qu'il y avait un Dieu qui était clair dans ses lois et qui mettait des limites. Elle en était consciente et apparemment, elle l'appréciait. Donc ça, pour une princesse païenne, je trouve bravo. Elle semble connaître la loi, d'ailleurs beaucoup mieux que Amnon. Alors que lui, il est de la tribu de Juda. Hein. Voilà, c'est bizarre quand même. Et ça me rappelle Uri, le mari de Bathsheba, vous vous souvenez? Beaucoup plus proche. L'Arche de l'Alliance est sur le champ de bataille. Moi, je ne peux pas profiter de la vie là pendant ce temps-là. Un respect pour Dieu qui est aussi chez Tamar. C'est pour ça, quand on dit le peuple d'Israël ne s'intéressait qu'à lui, je dis non. Les païens qui étaient inclus dans le peuple étaient quelquefois plus ouverts à Dieu que le peuple lui-même. On en a plusieurs exemples dans la Bible. Et puis, ne commets pas une telle folie. Alors, j'ai dit tout à l'heure, folie, c'est un mot très fort. Ce n'est pas juste une idée un peu bizarre. Ça vient du mot nebala, qui est utilisé 8 fois dans l'Ancien Testament, et il est réservé à des actes qui troublent à l'extrême l'ordre de la société. C'est très grave, la folie. Le mot folie dans la Bible, c'est très, très grave. Ce n'est pas une petite folie hein, qu'on fait quand on va s'acheter quelque chose. Non, non, c'est vraiment un mot très, très grave, très fort. Alors, ne commets pas une telle folie. Ensuite, où irais-je? Elle pense à elle en troisième. Où irais-je avec mon déshonneur? Et puis, toi, tu seras comme un fou en Israël. Elle reprend ce mot. Et le fait d'être un fou, un insensé, c'est un insensé, c'est un homme sans Dieu, un homme sans foi ni loi, un homme sans conscience. Ce n'est pas juste fou, fou comme ça. Et elle le raisonne avec des arguments qui portent. Elle cherche à gagner du temps en disant peut-être tu peux demander au roi, peut-être que lui... Mais rien à faire. La Bible est claire, il était plus fort qu'elle, physiquement. Donc s'il y a tous ces détails, c'est clairement pour nous scandaliser. La Bible n'est pas dans l'habitude de donner ce genre de détails. Il ne voulut pas l'écouter, comme il était plus fort qu'elle, il abusa d'elle. Voilà. Waouh. Il se met complètement au-dessus de la loi. Comment est-ce qu'un homme comme ça pourrait être proposé à la succession? C'était l'héritier du trône. Ça passera plus. Un homme sans principe et sans moralité. Il met sa propre carrière en péril. Tamar réfléchit aux conséquences pour elle, pour Amnon et pour Israël. C'est une fille qui réfléchit. Et puis, le revirement d'Amnon est choquant, mais d'après ce que j'ai lu, il est psychologiquement cohérent. Je ne sais pas si Florence pourrait confirmer ça, mais psychologiquement, c'est une réaction normale où on retourne sa culpabilité. Au lieu de la garder, on la retourne contre l'autre. Je me sens coupable, donc je ne veux plus de l'autre. Il ne pense pas du tout aux conséquences de ce acte. Il va ajouter à la violence, il va ajouter la haine, le rejet et le mépris. Il retourne sa culpabilité contre Tamar. Et il en fait même l'agresseur. Fermez les portes pour plus qu'elle vienne. C'était complètement ridicule. Hein, il était plus fort qu'elle. Et puis là, maintenant, il ne faut plus qu'elle vienne. Il faut barrer les portes. Parce qu'elle pleure, parce qu'elle crie, parce que voilà. Il la transforme en agresseur. Il faut verrouiller les portes pour se protéger de ses cris et de ses gestes de deuil. Comme parfois dans notre société, l'agresseur se fait passer pour la victime. Donc Amnon, là, se rend totalement détestable. Je ne sais pas pour vous, mais je le trouve franchement détestable. C'est épouvantable. Alors Absalom, on va juste terminer avec Absalom. Il fait preuve d'une certaine sagesse parce qu'il s'informe d'abord pour savoir s'il a bien compris ce qui s'est passé. Il est sérieux dans sa démarche. C'est bien ce que j'ai compris. Bon. Et puis il va lui conseiller le silence pour éviter un scandale public qui jetterait le discrédit sur la famille royale. Il a quand même le souci de la famille royale, de sa réputation. Il lui dit ne te soucie pas de cette affaire. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose à Absalom. Parce que finalement, c'est assez sage, les conseils qu'il donne là, honnêtement. Mais il lui manque quelque chose de capital. Et la repentance. David s'était repenti quand il a désobéi à Dieu. Il n'est pas allé voir Amnon pour lui dire, dis donc, il serait peut-être temps que tu demandes pardon à Dieu de ce que tu as fait. Tu répares autant que possible ce que tu as fait. Amnon, il est parti dans la justice, là. La justice des hommes. La justice de Dieu, c'est demande pardon et je te restaure et je répare les situations. La justice des hommes, il n'a rien dit, il a gardé le silence. Puis il s'est dit, le jour venu, je t'aurai. C'est passé 2 ans avant qu'il fasse justice. Mais vous savez, on dit parfois, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et Absalom, c'est ça. C'est l'homme intelligent scandalisé par le crime, et c'est bien qu'il soit scandalisé par le crime. Par contre, il exclut totalement la possibilité de la repentance, contrairement à David qui s'était repenti. Amnon, il n'en parle pas, il ne va pas se dire « bon, je vais aller voir mon frère, comme Nathan a fait avec David, et je vais aller le raisonner, je vais aller lui dire qu'il peut demander pardon à Dieu, qu'il peut tout faire pour réparer la situation. » Ne dis rien, ne te soucie pas de cette affaire, ne la prends pas trop à cœur. Sois apaisée, ma sœur, je vais prendre soin de toi. Et pour lui, je vais prendre l'affaire en main. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais je crois que Absalom montre déjà qu'il est dans la justice humaine. Je trouve qu'il a des grandes qualités. Il a compassion, il répare les dégâts de son frère. Mais il est dans la justice humaine. Je vais faire justice. Je vais prendre l'affaire en main. Mon père, il ne s'est pas manifesté. Il n'a même pas pris le temps d'aller voir son père pour lui dire « Mais dis donc, tu ne réagis pas là ?» Non. Je vais m'en occuper. Et il est tout à fait dans la justice humaine, dans la justice qu'on a connue pendant des siècles dans ce pays au niveau religieux. C'est dommage. C'est dommage. Parce que la justice de Dieu, c'est reconnaître ta faute, demande pardon et tu seras restauré. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice humaine, c'est « le jour venu, je t'aurai ». Ouais, c'est dommage. Il aurait pu avoir une belle vie, Absalom. Il aurait pu succéder à David. Il aurait pu réussir sa vie. Mais il a été rongé, et on va le voir dans l'histoire qui suit, il était rongé par cette injustice que je vais régler. Il l'a réglé par le meurtre. 2 ans après, il a tué Amnon. On va voir ça la fois prochaine. Et puis le résultat, ça a été le déchirement de toute la famille. David a souffert de cette séparation d'avec Absalom. Ça n'a jamais été réglé et c'est fini par la mort d'Absalom. C'est dommage parce que Absalom est resté sur la justice humaine, la justice que les religieux pendant des siècles ont malheureusement exercée. Cette justice qui ne tient pas compte de la miséricorde de Dieu et du pardon. Oui, Dieu tient compte du péché, il tient compte de la faute. Mais il cherche à nous amener au pardon pour nous restaurer. L'homme, ce n'est pas du tout son principe. Hein. Faire justice. Faire justice. Bien sûr, il y a des fois où les personnes ne veulent pas se repentir, ça arrive. Mais il faut quand même essayer de proposer cette repentance. Et c'est important. Et c'est notre rôle en tant que chrétien de dire aux gens qui nous entourent, est-ce que tu ne peux pas régler ce problème en demandant pardon à Dieu ? Et là, Dieu va te restaurer. Et quand on réfléchit à la vie extraordinaire qu'Absalom aurait pu avoir, c'est un gâchis, parce qu'il est resté sur cette justice humaine. Et je pense que Dieu nous aide à ne pas non plus tomber dans la naïveté, comme David avec Amnon. Tout va bien, je t'envoie ta part, elle va te donner des gâteaux. Ce genre de naïveté n'est pas bonne non plus. Mais la dureté d'Absalom, ce n'est pas bon non plus. Jésus avait trouvé la solution. Va et ne pêche plus. Seigneur, je te prie vraiment pour que tu nous aides chacun à nous rapprocher de ta position, à tomber ni dans la naïveté et la bêtise, je dirais, de David, ni dans la dureté et le complot de meurtre de Absalom. Seigneur, fais-nous grâce pour qu'on reste sur ta pensée, sur ta façon de voir. Et tu sais que ce n'est pas facile parce qu'on est humain, parce qu'on est limité, limité par nos sentiments, limité par nos réactions humaines. Seigneur, viens à notre secours et qu'on puisse être des gens qui annoncent autour d'eux que tu es le Dieu qui pardonne et qui redonne une nouvelle vie, qui redonne une nouvelle chance, qui permet de redémarrer à zéro. Tu n'es pas un Dieu qui est là pour punir et tuer et détruire, mais tu es là pour pardonner et restaurer. Merci Seigneur. Amen.
Alors, je suis désolé Michel de rajouter quelque chose. Peut-être que tu le diras la fois prochaine, mais comme ça fait partie de ce message-là, je lis dans mes notes concernant les causes de la position de David, quand il est dit au verset 21, le roi David apprit tout cela et fut très en colère. Il y a une petite note dans la Bible que j'ai qui dit, voilà, certaines versions anciennes ajoutent, et il n'affligea pas Amnon, car il l'aimait comme étant son fils aîné. Tu voulais le dire ?
La prochaine fois.
Voilà, que, vous voyez, on ne s'est pas concerté. Voilà. Donc, vous voyez, il avait une certaine raison, parce que le fils aîné, c'est le successeur de David. Donc, il y a une préférence. Et vous voyez, et ça, Michel, voilà, je ne savais pas si elle allait en parler, mais c'est des versions anciennes, comme quoi la Bible, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas des versets qui tombent du ciel. C'est des versets qui rapportent des choses que nous pouvons vivre et interpréter, comme l'a dit Michel, dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est intéressant que certaines versions anciennes rajoutent le pourquoi David a fait ça. Parce que c'était son fils aîné. Et ça, c'est grave. Ça veut dire qu'il avait une prédisposition dans sa tête que le fils aîné, il ne fallait pas y toucher parce qu'il allait me remplacer. Et je pense que Michel, s'il a prévu d'en parler, je ne vais pas lui enlever ses commentaires qu'elle va faire. Mais voilà, ça fait partie aussi d'une version qui avait été écrite, qui n'est pas là officiellement retenue, mais qui explique pourquoi aussi David est tombé dans le panneau. Comme quoi, voilà, on est humain. David était humain. Et il a fait l'erreur de favoriser un fils aîné sous prétexte qu'il allait le remplacer. Mais l'histoire montre que c'était dramatique par la suite et que Israël n'est pas sorti grandi. D'ailleurs, après David, le royaume s'est divisé. Vous voyez, ce n'a pas été la gloire d'Israël qui a succédé à David, bien au contraire. Et ça prouve qu'il faut être très attentif à nous-mêmes, la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous regardons les choses, et de toujours s'appuyer sur la justice de Dieu, comme Michel nous l'a rappelé. Voilà, merci beaucoup.